Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse aujourd'hui au paludisme et plus spécifiquement aux recherches actuelles pour lutter contre cette maladie infectieuse. Le paludisme, également appelé malaria, tue chaque année 1 million de personnes dans le monde, soit un mort toutes les 30 secondes. Il touche en grande majorité les enfants de moins de 5 ans et on estime que 40% de la population mondiale vit dans des zones à risque, en Afrique essentiellement, soit plus de 2 milliards de personnes. À l'origine de cette maladie, des parasites protozoaires du genre Plasmodium, qui pour se développer ont besoin d'un vecteur et d'un réservoir. Le vecteur, celui qui transmet la maladie, c'est le moustique, les Anopheles gambiae, et c'est l'homme qui joue le rôle de réservoir. Pour le moment, il n'existe encore aucun vaccin, seule la prévention reste la solution avec les traitements antipaludéens, les antimoustiques, les moustiquaires. Et encore, l'émergence de résistance de ces parasites aux médicaments classiques nécessite l'identification de nouvelles molécules présentant des structures et des cibles cellulaires originales. Voici donc l'objet de notre émission, quelles sont les recherches actuelles en matière de traitement contre le paludisme. Dans notre studio, deux jeunes scientifiques ont fait le déplacement jusqu'à Canal Académie pour nous parler en détail de leurs travaux et de leurs découvertes respectives. Cécile Frollet et Maëlle Carraz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Cécile Frollet, vous travaillez à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Vous avez travaillé, puisque maintenant vous êtes à Grenoble. Donc cet Institut de biologie moléculaire et cellulaire était à Strasbourg. Et votre thèse portait à l'époque sur les mécanismes de défense du moustique Anopheles contre le Plasmodium. Nous y reviendrons en détail au cours de cette émission. Et Maëlle Carraz, vous êtes donc chercheur. Vous avez travaillé pendant pas mal de temps à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'UMR S511 à la Pitié-Salpêtrière, et conjointement, vous avez travaillé également au laboratoire de chimie du Muséum national d'histoire naturelle du CNRS.
C'est exact.
Alors, Maëlle, vos travaux portent sur une plante malgache pour un nouveau médicament contre le paludisme, c'est cela ?
Exactement.
Nous aurons également l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Alors, je précise pour vous deux que vous avez présenté vos travaux lors d'une séance de l'Académie des sciences en juin 2007. C'était une séance consacrée aux grandes avancées françaises en biologie et vous étiez accompagné à cette époque de 4 autres jeunes chercheurs qui ont présenté également l'objet de leur découverte, que ce soit sur un gène de l'autisme, l'origine de la droite et de la gauche sur un plan neurologique ou encore l'architecture d'un tissu vivant. Mais alors, revenons à l'objet de notre émission. Pour lutter contre cet agent infectieux, le paludisme, il y a possibilité d'intervenir à 3 niveaux, le parasite, l'homme et le moustique. Alors Cécile Frollet, vous avez travaillé sur le moustique et Maëlle Carraz sur l'homme et l'identification de cibles vaccinales. Alors avant d'en venir plus spécifiquement à vos travaux, 2 mots peut-être sur le parasite, je ne sais pas qui veut commencer. Il existe plusieurs types de paludisme, mais il faut peut-être le préciser. Et il y a le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, on en parlait en préparant cette émission, le Plasmodium malariae, ou malaria, je ne sais pas comment on prononce, et le Plasmodium ovale. Quelles sont leurs spécificités à chacun ? Cécile Frollet.
Eh bien, en fait, effectivement, il y a 4 espèces différentes de Plasmodium qui peuvent donner la maladie qu'on appelle paludisme. Cependant, un seul est mortel, il s'agit de Plasmodium falciparum, enfin essentiellement c'est lui qui est mortel, puisque c'est lui qui donne les formes cérébrales de la maladie, qui sont les formes qui touchent le plus les enfants de moins de 5 ans en Afrique. Et les autres espèces donnent des formes plus ou moins différentes. Par exemple, les voyageurs qui reviennent en France avec le paludisme et qui refont des épisodes paludiques au cours de toute leur vie n'ont pas Plasmodium falciparum, puisque celui-ci est éliminé au bout de 2 ans. Par le système immunitaire quand il n'est pas fatal. Voilà.
Donc le Plasmodium falciparum, c'est en quelque sorte une sorte de paludisme foudroyant.
Oui, c'est lui qui est le plus dangereux en tout cas.
Et le plus répandu aussi.
Oui. Oui.
Et les autres sont chroniques, on va dire, on ne s'en débarrasse pas.
Alors ce qui se passe, c'est pour 2 espèces de Plasmodium, Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, il existe ce qu'on appelle des formes dormantes dans le foie. Parce qu'il faut savoir que lorsque le moustique pique l'homme, son premier site d'invasion est dans le foie. Et en ce qui concerne l'espèce falciparum et malariae, une fois le développement hépatique, ces parasites migrent rapidement dans le sang. Mais pour Vivax et Ovalé, ils peuvent séjourner sous l'état de dormance pendant plusieurs années parfois et se réveiller enfin pour réengendrer la maladie. Et c'est vraiment la caractéristique de ces deux espèces de parasites.
Et justement, vous avez travaillé sur les cellules hépatiques, donc vous êtes plus à même de pouvoir nous en parler. Alors, Cécile Frelay, vous intéressez aux moustiques? Car c'est lui, ce vecteur, qui va nous apporter cette maladie.
Oui, tout à fait. En fait, on ne peut pas attraper le paludisme si on rencontre simplement quelqu'un qui est atteint du paludisme, puisque le cycle du plasmodium a besoin à la fois de l'homme et du moustique. Et en effet, chez le moustique se déroule la partie sexuée du cycle du plasmodium qui est très importante.
Alors justement, est-ce que les insecticides qui permettraient d'éliminer les moustiques ne suffiraient pas à essayer de combattre le paludisme?
Alors en effet, c'est la technique qui a été choisie en Europe. Par exemple, quand on a décidé d'éradiquer le paludisme en Europe, on a pulvérisé du DTT un petit peu de partout, qui est un insecticide qui était relativement efficace à l'époque. Ça a très bien marché en Europe puisque le paludisme a été éradiqué. Les derniers cas ont été observés pour la France, en Corse, il y a quelques années maintenant, de nombreuses années. Donc ça a été très efficace. Par contre, en Afrique, ça n'a pas suffi. Et d'autant plus qu'on a commencé de se rendre compte que ces insecticides pouvaient être nocifs pour l'environnement et pour les hommes. Et l'autre problème de l'Afrique, c'est que les moustiques se développent toute l'année là-bas, alors qu'en France, on a des développements de moustiques qui ont lieu principalement l'été, ce qui fait qu'il est beaucoup plus dur d'éradiquer tous les moustiques d'un seul coup, comme ça a pu être réalisé en Europe.
Alors justement, ce moustique, comment déjà lui va-t-il avoir ce plasmodium en lui? Comment ça va se passer?
Alors le moustique attrape, entre guillemets, le plasmodium en piquant un être humain qui est lui-même déjà infecté. Ensuite, ce plasmodium va se développer chez le moustique. Et ce qui nous intéresse justement, c'est d'essayer de comprendre comment ce plasmodium se développe chez le moustique. C'est quelque chose qui était relativement méconnu au niveau moléculaire et cellulaire, afin de voir si on peut lutter contre le plasmodium au sein du moustique. Et ensuite, le moustique, au bout de 3 semaines environ, le plasmodium se sera suffisamment développé dans le moustique et au bout de 3 semaines, le moustique sera capable de réinjecter une forme qui va être infectante pour un nouvel être humain.
Alors justement, vous avez vu qu'il y avait des moustiques qui avaient une certaine immunité face à ce plasmodium.
Alors ça, c'est pas vraiment nous qui l'avons vu, c'est quelque chose qui a été fait depuis relativement longtemps, c'est-à-dire qu'on a pu construire des lignées de l'espèce Anopheles gambier, donc l'espèce qui est le vecteur principal du paludisme. Ces lignées ne sont plus capables de propager le paludisme. C'est-à-dire que, par croisement génétique, on a sélectionné une lignée qui ne propage plus le paludisme. Et en fait, ceci était quelque chose de très intéressant quand ça a été découvert, puisque ça veut dire, quelque part, qu'au niveau génétique, le moustique est capable de se débarrasser du plasmodium. Donc c'est ça le point de départ des recherches qui sont menées dans le laboratoire où j'ai travaillé à Strasbourg, puisque ce qui nous intéresse, c'est de comprendre si et comment le moustique se défend contre le plasmodium. Et cette première découverte de lignées réfractaires au plasmodium, c'est comme ça qu'on les appelle, permet d'envisager des études au niveau génétique, moléculaire et cellulaire pour comprendre quelles sont les molécules impliquées dans la défense contre le plasmodium chez le moustique.
Et ce sont donc des travaux qui ont débuté à partir de 2002, date à laquelle le séquençage du génome de cet insecte a été réalisé?
Tout à fait. En 2002, le séquençage du génome de l'anophèle a permis d'envisager des recherches beaucoup plus précises au niveau moléculaire, puisque une fois qu'on a réussi à séquencer un organisme, en fait, on a accès directement à l'ensemble des protéines qui sont produites par cet organisme. Et ça nous permet d'avoir une vue générale sur toutes les molécules qui sont susceptibles d'interagir avec le parasite. Donc après, il fallait trouver ces molécules. Et après, c'est là que les différents axes de recherche qui sont choisis au laboratoire permettent de découvrir telle ou telle molécule qui a une influence contre le paludisme.
Alors vous parliez d'effecteurs, ce sont ce qui régule les parasites en quelque sorte?
Alors en effet, après avoir découvert qu'il y avait des souches d'anophèles qui pouvaient ne plus transmettre le parasite, on a aussi découvert des molécules, comme la molécule TEP1 par exemple, qui sont capables, chez le moustique, de limiter la progression des parasites. Et ça aussi, c'était une découverte très importante, puisque jusque-là, on ne savait pas du tout si le moustique se défendait ou non contre l'infection par le plasmodium. En effet, le moustique ne souffre pas de cette infection, il n'a pas l'air malade. Donc a priori, on peut imaginer qu'il la tolère comme on peut tolérer n'importe quelle infection.
Qu'il
l'intègre normalement et qu'il le laisse se développer. Et en fait, la découverte de cette molécule TEP1, qui a été réalisée à l'EMBL en Allemagne par ma directrice de thèse, qui ensuite est venue à Strasbourg pour monter le laboratoire, cette molécule est capable de limiter la progression des parasites, puisque quand on enlève cette molécule du moustique, on a 4 fois plus de parasites qui vont se développer. Donc ça, c'était le premier effecteur qui a été découvert.
Ensuite, il y a donc REL 1 et REL 2. Alors, à quoi ça correspond ?
Alors, en fait, au laboratoire, nous connaissions un certain nombre d'effecteurs au moment où les travaux ont commencé et nous avons voulu nous intéresser un petit peu plus en amont à ce qui se produisait. En effet, le gène codant pour cette protéine doit être transcrit et pour que ce gène soit transcrit, il faut que la transcription soit activée. Et ce qui active cette transcription, ce sont des facteurs de transcription. Donc nous nous sommes intéressés aux facteurs de transcription afin de savoir s'ils étaient impliqués dans la régulation de l'expression des effecteurs et donc dans la réponse contre le plasmodium. L'idée sous-jacente était de découvrir plus d'effecteurs que ce que nous connaissions habituellement et aussi de monter un petit peu en amont. Et REL1 et REL2 sont deux facteurs de transcription de type NF-kappa-B. Donc ces facteurs de transcription ont été identifiés grâce au séquençage du génome, puisque ce sont des homologues de facteurs de transcription de la drosophile. Et chez la drosophile, ces deux facteurs de transcription sont impliqués dans la réponse immunitaire. Donc c'est pour ça qu'on est allé d'abord travailler avec ces deux facteurs de transcription. Et on a eu raison, puisqu'effectivement, on a pu se rendre compte que ces facteurs de transcription sont responsables de l'expression d'un certain nombre de facteurs qui sont des effecteurs, en fait, de la défense contre le plasmodium.
Alors, l'idée, c'est en fait d'activer REL1 et REL2. Qu'est-ce qui est...
Alors, en fait, ces facteurs de transcription, tout est très bien contrôlé et régulé dans les cellules. Et ces facteurs de transcription, pour ne pas qu'ils soient activés en permanence, ils sont inhibés par un répresseur qui s'appelle Cactus. Et ce que nous avons réalisé, c'est pour forcer l'expression de ces facteurs de transcription, nous avons inactivé la molécule Cactus, forçant ainsi la translocation dans le noyau du facteur de transcription et donc l'expression des gènes qui sont contrôlés par ce facteur de transcription. Ça nous a permis d'augmenter artificiellement leur efficacité en fait et de produire plus d'effecteurs dans le moustique. Ainsi, nous avons constaté que les moustiques ainsi traités ne permettent plus de transmettre le paludisme. Et donc, en fait, nous avons réussi à bloquer la transmission du plasmodium dans ces moustiques. Cet ensemble de découvertes nous a permis de constater l'importance de ces facteurs de transcription dans la régulation de l'immunité contre le plasmodium. Puisqu'en fait, ce que nous avons pu observer, c'est que ces facteurs de transcription sont en permanence activés à un niveau basal pour produire des effecteurs qui vont contrôler la progression du plasmodium au moment où celui-ci entre dans le moustique. Puisque le problème de l'infection parasitaire, c'est qu'elle est relativement rapide et que le système immunitaire doit être prêt. Donc là, nous avons pu démontrer qu'en effet, il était prêt et qu'un certain nombre d'effecteurs étaient déjà en circulation pour lutter directement contre le plasmodium une fois qu'il entre dans l'intestin du moustique.
Donc finalement, vous forcez la nature, mais voilà. À partir de quelque chose qui existait auparavant.
En fait, on a simplement amplifié l'immunité basale du moustique, ce qui nous a permis de complètement bloquer le développement du plasmodium.
Alors aujourd'hui, quelles sont les étapes à venir ? Ça serait de trouver un aérosol qui permettrait Cactus, par exemple, de se marquer encore un peu plus ?
Voilà. En fait, l'idée, après, beaucoup plus appliquée qui irait là derrière, ce serait de trouver une molécule qui pourrait mimer les effets qu'on a observés en supprimant le gène qui code pour la protéine Cactus. Là, il y a beaucoup de travail à faire, puisqu'en fait, il s'agirait de cribler beaucoup de petites molécules. Donc, il y a des banques qui existent pour ça, des banques de molécules. Il faudrait les cribler pour voir lesquelles permettent de mimer l'effet qu'on a observé avec Cactus. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là, puisqu'il y a une autre étape intermédiaire qu'il faut réaliser avant. Nous avons travaillé au laboratoire pour des raisons de sécurité, de praticité et de faisabilité technique sur Plasmodium berghei, qui n'est aucun des quatre plasmodiums dont on a déjà parlé, oui. Qui est un plasmodium de souris en fait. Ce plasmodium n'est pas le même que Plasmodium falciparum. Et donc il faut déjà que nous voyions sur Plasmodium falciparum quels sont les effets de l'inactivation du gène codant pour la protéine Cactus. Donc ça, c'est les étapes immédiatement fondamentales à venir, pour voir si on peut avoir le même genre d'effet, si c'est pas exactement le même genre d'effet, pourquoi, etc. Donc il faut passer maintenant au modèle Plasmodium falciparum.
Alors je vous propose de marquer une première courte pause et on se retrouve tout de suite après pour peut-être ensuite parler plus en détail des travaux de Maëlle Carraz. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Retour à notre émission Éclairage en compagnie de Cécile Frollet et Maëlle Caraz, émission consacrée à leur recherche sur le paludisme, une maladie infectieuse qui tue chaque année, rappelons-le, 1 million de personnes dans le monde, soit un mort toutes les 30 secondes, avec aussi des conséquences non seulement humaines très importantes, on s'en doute, mais aussi des conséquences socio-économiques, puisqu'on estime que les pertes de croissance dues au paludisme étaient de 18% des revenus en 95 dans les zones d'Afrique les plus touchées. Je me réfère pour cela à la thèse de Cécile Frollet qui, dans son introduction, faisait référence effectivement aux conséquences économiques et sociales. Donc avec vous, Cécile Frollet, dans cette première partie d'émission, nous avons parlé de certains moustiques qui déclenchent une immunité au contact du plasmodium, agent infectieux du paludisme. Avec vous, Maëlle Caraz, nous allons pouvoir nous intéresser au traitement du paludisme, au traitement par les plantes. Et vous êtes intéressée, je crois, à une plante malgache qui apparemment aurait des vertus curatives contre le paludisme.
Oui, tout à fait. Donc la recherche que nous avons effectuée au sein des laboratoires de chimie des substances naturelles du Muséum d'Histoire Naturelle et d'immunologie cellulaire et moléculaire des infections parasitaires à la Pitié-Salpêtrière à Paris vise à développer de nouvelles alternatives thérapeutiques pour l'homme contre le paludisme. Et ceci, en fait, se justifie par le fait qu'il n'y a encore aucun médicament antipaludique miracle et que les médicaments actuels ont une utilisation très limitée pour la plupart des populations vivant dans ces pays exposés, de par leur coût, leur accessibilité, leur toxicité ou leur inefficacité due au nombre croissant des cas de résistance des parasites à ces médicaments.
Ce sont des traitements antipaludiens, donc préventifs, que l'on prend avant d'être touché par la maladie.
Donc ça dépend à quel point de vue on se situe. Ce sont des médicaments qui sont administrés quand la maladie est déjà déclarée pour les populations concernées et exposées au paludisme, mais qui peuvent être prises en prévention par les voyageurs, par exemple, qui vont ensuite être exposés dans ces zones à risque pendant leur séjour, donc principalement en zone intertropicale.
Mais alors justement, je suppose que utiliser les plantes pour lutter contre le paludisme n'est pas une idée nouvelle. Alors est-ce un mythe ou une réalité, ces plantes ?
Oui, alors est-ce que ces plantes antipaludiques utilisées par les populations endogènes dans les zones intertropicales ont réellement un effet? C'est la question à laquelle les laboratoires du monde entier effectuant des recherches à l'interface de la chimie et de la biologie tentent de répondre. Et pour des pathologies infectieuses comme le paludisme, mais aussi pour d'autres pathologies comme le cancer. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que de nombreuses molécules extraites de plantes utilisées en médecine traditionnelle ont prouvé leur efficacité en clinique. Et c'est le cas pour le paludisme de la quinine, extraite de l'arbre péruvien cinchona, utilisée beaucoup en intraveineuse dans des accès les plus graves de la maladie, ou encore l'artémisinine, qui est une molécule nouvelle, isolée récemment, il y a une trentaine d'années, d'une herbe chinoise Artemisia annua, et qui est très efficace et d'action très rapide contre les formes sanguines des parasites chez l'homme. Donc, à l'heure actuelle, les deux molécules phares et les deux médicaments principaux proviennent des plantes, ce qui a bien sûr motivé notre recherche pour l'élaboration de nouveaux médicaments à partir des plantes.
Alors vous travaillez plutôt sur l'identification de cibles vaccinales, mais du domaine hépatique et non pas neurologique, hein ?
Alors, les cibles vaccinales, c'est un terme qui me choque un petit peu, parce que nous, on ne vise pas à développer un nouveau vaccin.
Vous visez à développer un médicament ?
Donc on vise à développer un médicament qui pourrait tuer le parasite chez l'homme. Et l'originalité de notre démarche, c'est qu'on a identifié une molécule qui ne vise pas le parasite lors de son développement pendant le cycle sanguin du parasite, mais en amont, et donc réellement prophylactique, puisque on vise les parasites lors de leur développement sur le stade hépatique.
Alors justement, vous êtes intéressé à une plante plus spécifique qui se trouve à Madagascar, parmi 12 000 plantes qui apparemment auraient des vertus antipaludéennes.
Oui, donc dans notre laboratoire, en collaboration avec les chercheurs de l'Institut Malgache de Recherche Appliquée, l'IMRA, et en particulier le professeur Philippe Razanevo, nous nous intéressons aux plantes utilisées en médecine traditionnelle malgache pour lutter contre le paludisme. Mais notre objectif est double. Le premier est de contribuer à la valorisation et à la protection de la flore malgache, qui est l'une des plus riches au monde. On dénombre en effet, comme vous le disiez, au moins 12 000 espèces de plantes différentes qui sont aujourd'hui répertoriées, et 80 80% sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que sur l'île de Madagascar. Mais la déforestation est massive, due à la culture sur brûlis, et ceci révèle un besoin urgent d'explorer cette flore et de valoriser les molécules chimiques potentiellement originales que ces plantes contiennent. Et notre deuxième objectif est donc d'identifier à partir de ces plantes de nouvelles molécules antipaludiques, de structures et de cibles originales, avec un minimum de chances pour les parasites de développer cette fois une résistance, ce qui permettrait à terme d'orienter les populations vers l'utilisation de telle ou telle plante.
Mais alors je suppose que pour vous tourner vers une plante spécifique, oui. La Ménispermacée, pour avoir connaissance de cette plante parmi toute la flore qui existe à Madagascar, je suppose que vous êtes axé sur la médecine traditionnelle. Donc ça veut dire que les populations avaient une connaissance à la base de cette plante.
Tout à fait, tout à fait. En fait, donc notre étude s'est appuyée sur des enquêtes ethnobotaniques de terrain effectuées par nos collègues malgaches auprès des communautés rurales dans les forêts tropicales humides de l'est de Madagascar. Et donc ces enquêtes mentionnaient l'utilisation au total de 229 plantes pour combattre le paludisme. Donc nous, notre travail a débuté par la récolte d'échantillons de ces plantes qui ont été séchées, broyées et extraits par des solvants organiques afin d'être testés ensuite in vitro pour valider leur activité sur des cultures de Plasmodium falciparum se développant dans des globules rouges humains. Et nous avons abouti au résultat que 10% de ces extraits organiques de plantes pouvaient inhiber effectivement le développement des parasites dans les globules rouges sanguins. Mais mon attention, c'est portée sur une plante particulière, donc Strychnopsis tuarcii, endémique elle aussi de Madagascar, et pour lesquelles les données ethnopharmacologiques rapportent une utilisation spécifique contre le paludisme, contrairement à la majorité des plantes qui peuvent être utilisées dans plusieurs pathologies humaines. Et cependant, contre toute attente, les écorces de troncs préparées selon le protocole traditionnel, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante, c'est assez rudimentaire.
Des tisanes en quelque sorte?
Exactement. Se sont révélées très peu actives in vitro pour inhiber le développement de Plasmodium falciparum dans des parasites humains. Donc, nous avons émis l'hypothèse que ce décoqueté d'écorce de tige de Strychnopsis pouvait avoir une autre cible thérapeutique sur le stade hépatique du parasite.
Alors, la molécule qui existe et qui va avoir une action s'appelle la tazopsine, c'est ça?
Oui.
Et alors, quel est son rôle effectif sur le plasmodium?
On a validé l'activité, donc déjà le processus d'extraction de cette molécule, parce que vous imaginez bien, on teste un extrait, il est actif, mais la question qu'on se pose, c'est quelles sont, parmi les centaines de molécules présentes dans cet extrait, la molécule qui est responsable de cette activité. C'est pour ça qu'on a eu besoin de l'expertise à la fois du laboratoire de chimie et de biologie pour pas à pas fractionner cet extrait de plante, tester toutes les fractions et ne retenir que celles qui étaient actives et de purifier peu à peu et d'isoler la molécule qui était responsable de cette activité. Et en fait, on a trouvé trois molécules apparentées appartenant à la famille des morphinanes, la tazopsine, l'épitazopsine et la sinococcaline. Mais la tazopsine s'est révélée une molécule de structure originale de la famille des morphinanes. Et c'est cette molécule qu'on a trouvée la plus abondante et la plus active contre le stade hépatique de Plasmodium.
Alors ça empêche effectivement ce stade hépatique de Plasmodium, mais alors c'est uniquement chez la souris pour le moment?
Alors, nous avons testé au départ l'extrait brut et nous avons isolé cette molécule à partir d'un modèle de rongeur qui consistait à infecter des cellules hépatiques de souris in vitro par des plasmodiums de rongeurs. Mais ensuite, nous avons pu prouver que l'efficacité de cette molécule tazopsine pouvait être étendue au modèle humain et qu'elle inhibait également les parasites de type falciparum, donc les plus mortels et les plus dangereux, virulents, dans des cellules hépatiques humaines.
Dans les années à venir, quelle va être l'utilisation en pharmacologie de cette plante?
Pour l'instant, les étapes qu'on a validées sont en culture dans des hépatocytes de souris ou humains. On a quand même validé les premières étapes pharmacologiques in vivo chez la souris avec cette molécule tazopsine et on a montré qu'une administration de la tazopsine chez des souris pendant qu'elles développent un stade hépatique parasitaire pouvait protéger 70% des souris totalement contre la maladie. Et de plus, on a modifié chimiquement cette molécule tazopsine pour la rendre plus active et moins toxique. Et on aboutit déjà chez la souris à 100% de protection maintenant. Alors, la souris n'est pas une finalité, bien sûr. Et déjà, on travaille à des études de pharmacocinétique à la fois chez la souris, à la fois chez le singe, pour la tazopsine et son dérivé, la NCP-tazopsine, pour à terme tester ces molécules sur le plasmodium falciparum infectant certains singes.
Alors voilà, vous précisez le plasmodium falciparum. Qu'en est-il des autres plasmodiums? Là, pour le coup, cette molécule n'agit pas contre, par exemple, le plasmodium vivax ou autre?
Alors, pour l'instant, nous n'avons pas testé cette éventualité, mais c'est une étude que nous souhaitons vraiment mener et qui consisterait donc à évaluer la capacité de la tazopsine et de son dérivé à détruire des formes parasitaires hépatiques particulières, donc les hypnozoïtes, en dormance dans le foie, donc responsables de ces rechutes suite à une infection par les deux espèces vivax et ovalée. Et cette recherche est motivée par le fait qu'une seule molécule, jusqu'à maintenant, la primaquine, est connue à ce jour pour éliminer ce type de forme parasitaire. Et son utilisation est très limitée par ses effets secondaires. Donc, une espèce de parasite de singe, cynomolgie, très apparentée à celle de l'homme et qui aussi engendre des hypnozoïtes, nous permettrait chez le singe rhésus de tester la capacité de la tazopsine et de son dérivé sur ses formes de dormance dans le foie.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause et on se retrouve pour la suite de notre émission où nous parlerons peut-être de vos nouvelles recherches puisque vous êtes maintenant Cécile à Grenoble et puis vous Maëlle en Allemagne. On parlera donc de vos nouvelles recherches et puis également des espoirs de la biologie en ce qui concerne le paludisme. À tout de suite. Suite de notre émission Éclairage, en compagnie de Cécile Frollet et de Maëlle Carraz, qui sont venues en juin 2007 présenter leurs travaux à l'Académie des sciences lors d'une journée consacrée aux avancées en biologie, les avancées françaises. Donc nous parlons du paludisme, puisque c'est à toutes les deux l'objet de vos recherches. Dans cette dernière partie, donc, nous allons pouvoir parler des étapes à venir concernant les recherches sur le paludisme, en l'occurrence vos recherches, et puis également nous parlerons de vos domaines respectifs actuels, puisque comme tout chercheur, vous avez peut-être d'autres domaines de prédilection, d'autres domaines de recherche. Alors Cécile Frollet, pour revenir à vous, donc nous avons parlé du moustique en lui-même, hein, vecteur de la maladie, du paludisme et vecteur donc du plasmodium. Alors une fois que ces TEP1 ou que ces molécules ont été identifiées, quelles vont être les étapes à venir pour essayer de trouver, je suppose, un médicament pour lutter contre le paludisme?
Alors j'aurais tendance à dire qu'il reste encore beaucoup de choses à comprendre sur tous les effecteurs de la réponse contre le plasmodium chez le moustique, puisqu'en fait actuellement on est relativement ignorant. C'est-à-dire qu'on a compris que l'immunité basale joue un rôle fondamental, on a compris que le moustique a une réponse immunitaire qui est dirigée contre le plasmodium. Maintenant, on ne sait pas manipuler cette réponse autrement que dans un laboratoire. Donc il reste, je pense, à connaître de nouveaux effecteurs. On en connaît relativement peu, en fait. On connaît, je dirais, une petite dizaine d'effecteurs de la réponse immunitaire contre le plasmodium correctement. Donc, il y a tout ça à faire dans le modèle Plasmodium berghei Anopheles gambier, donc le modèle murin du paludisme. Mais ce qu'il reste aussi à faire, c'est que tout ce pan de recherche qui concerne Plasmodium berghei Anopheles gambier doit être étendu à Plasmodium falciparum. C'est-à-dire que actuellement, c'est relativement difficile de travailler en laboratoire comme nous travaillons avec Plasmodium berghei sur Plasmodium falciparum. Il y a de nombreux problèmes, notamment de lignées qui sont plus ou moins représentatives des lignées existantes en Afrique. D'une lignée à l'autre de Plasmodium falciparum, il y a beaucoup de variabilité. Donc il faut qu'on trouve un moyen de tester tout ce qu'on a pu tester et de comprendre tout ce qu'on a pu comprendre avec Plasmodium falciparum. Donc ça, je pense que c'est une grande étape pour les 10 années à venir, de réussir à mener des recherches vraiment au niveau moléculaire et cellulaire sur Plasmodium falciparum in vivo chez Anopheles gambier. Donc ça pourra sûrement se faire en collaboration avec des laboratoires en Afrique, puisqu'il y a de nombreux laboratoires qui commencent à travailler en Afrique sur ces questions et à être très bien équipés au niveau biologie moléculaire et cellulaire. Et puis aussi en Europe, il reste à monter des laboratoires de type P3. Il y en a qui existent, qui travaillent avec Plasmodium falciparum, mais il y en faudra sans doute d'autres.
Et justement, vous le précisiez en préparant cette émission, c'est que votre organisme de recherche était en collaboration avec le Cameroun, avec un laboratoire au Cameroun.
Oui, tout à fait. Et j'ai effectué un certain nombre de travaux au Cameroun pendant cette thèse, pour essayer de valider ce que nous avons trouvé chez le moustique avec Plasmodium berghei sur Plasmodium falciparum. Et justement, il s'avère qu'il y a quand même quelques différences entre les deux espèces de Plasmodium et les réponses qu'elles induisent chez les moustiques, et tout ça, ça reste à comprendre. C'est encore très mystérieux, si j'ose dire.
Et alors justement, le Plasmodium, on a bien compris qu'il y avait différents types de Plasmodium. Mm-hmm. Est-ce qu'il serait amené, il semble assez mouvant, est-ce qu'il pourrait exister un nouveau type de Plasmodium, comme il existe chaque année une nouvelle grippe, une grippe mutante, est-ce qu'il pourrait exister un Plasmodium mutant, en quelque sorte?
Alors, je ne suis pas spécialiste de Plasmodium, mais par contre, si j'ai bien compris, effectivement, en Afrique, rien qu'entre Plasmodium falciparum qu'on peut trouver au Kenya et le Plasmodium falciparum qu'on peut trouver au Cameroun, on n'aura pas les mêmes résultats expérimentaux. Donc, la spécificité de Plasmodium et aussi de l'Anopheles, c'est d'avoir un génome qui est relativement mouvant et qui mute très vite, et c'est aussi pour ça qu'ils sont résistants aux traitements au fur et à mesure où les traitements arrivent. Et pareil pour l'Anopheles, s'il est résistant aux insecticides au fur et à mesure où on introduit de nouveaux insecticides, c'est parce que son génome est relativement, et même très plastique, par rapport au génome, par exemple, de son cousin, la drosophile, la mouche du vinaigre. Le génome de l'Anopheles est très plastique, et le génome du Plasmodium aussi. Donc même entre deux espèces de Plasmodium falciparum, on n'a pas toujours les mêmes réponses au traitement. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, et c'est pour ça que je disais qu'il y a un grand pan de recherche à ouvrir là-dessus, parce que on est encore relativement ignorant des bases moléculaires de ces variations.
Et alors aujourd'hui, vous avez laissé un peu de côté tout ce qui est du domaine du paludisme pour vous intéresser aux pneumocoques?
Oui, alors en effet, ce qui m'intéresse principalement en biologie, c'est ce qu'on appelle les interactions hôtes pathogènes. Donc l'interaction entre un organisme qui entre à l'intérieur d'un autre organisme et comment ils se défendent l'un contre l'autre mutuellement et l'un se nourrit de l'autre. Actuellement, je travaille plus du côté des protéines. Donc je travaille sur le pneumocoque, c'est une bactérie qui donne des infections pulmonaires chez les enfants et qui est portée par à peu près 50% des enfants et qui donne surtout des méningites foudroyantes qui sont mortelles. Cette bactérie tue aussi presque 1 million de personnes chaque année, principalement des personnes âgées et des enfants. Et l'objet de mes recherches actuellement, c'est de travailler sur les protéines de surface des bactéries des pneumocoques pour essayer de comprendre comment cette bactérie interagit moléculairement avec l'hôte, c'est-à-dire avec les cellules pulmonaires. Donc je travaille à la production des protéines de surface du pneumocoque et je teste leurs interactions avec des molécules de l'hôte. Puisque là encore, aussi étonnant que ça puisse paraître, on est très ignorant, on connaît très peu de molécules de surface du pneumocoque. Et pourtant, ces molécules de surface sont d'excellentes cibles soit pour faire de nouveaux vaccins, soit pour diriger de nouveaux antibiotiques. Donc c'est ça l'objectif du travail, trouver soit un nouveau vaccin, soit de nouvelles cibles pour des antibiotiques.
Donc encore de nombreuses années de recherche.
Tout à fait, enfin j'espère.
Alors, en ce qui vous concerne, Maëlle, maintenant vous n'êtes plus à la Pitié-Salpêtrière, ou encore si un peu, mais en tout cas maintenant vous travaillez à Dortmund, en Allemagne, toujours sur le paludisme.
Non, alors j'effectue un stage postdoctoral en Allemagne maintenant depuis 1 an et malheureusement j'ai dû abandonner le sujet du paludisme pour m'intéresser à d'autres pathologies aussi très intéressantes comme le cancer du sein et le cancer de la prostate puisque maintenant je m'intéresse moi aussi aux protéines, aux récepteurs des œstrogènes et aux récepteurs des androgènes et de comprendre leur interaction cellulaire avec leurs coactivateurs. Et de développer aussi, donc d'un point de vue chimique, des molécules qui inhiberaient cette interaction protéine-protéine. À terme, je souhaiterais vraiment me relancer dans cette recherche sur le paludisme et de comprendre, par exemple, ces molécules extraites des plantes, donc elles ont un effet pharmacologique prouvé, mais quelles sont les cibles moléculaires de ces molécules. Et pour cela, on doit investiguer plus la cellule et la relation justement du parasite avec la cellule, quelles sont les protéines mises en cause et comment une petite molécule telle que la tazopsine peut inhiber cette interaction et tuer à terme le parasite dans ces cellules.
Justement, alors pour terminer sur le paludisme, à Madagascar, les populations utilisent, je suppose, cette plante ?
Oui. Cette plante pousse principalement dans la forêt tropicale humide de l'est de Madagascar et pour l'instant, c'est la seule aire où on a retrouvé cette plante.
Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour développer la collecte de cette plante, en tout cas développer une agriculture de cette plante pour pouvoir la transposer ailleurs en Afrique ?
Alors c'est quelque chose auquel on pense bien sûr, puisque a priori la synthèse totale de la tazopsine par voie chimique est difficile. Et en première instance, une culture de la plante serait vraiment le principal recours pour obtenir cette molécule. Maintenant, je pense que stratégiquement, il est plus intéressant de prouver l'efficacité de la tazopsine et de ses dérivés in vivo, donc sur le Plasmodium falciparum et sur les formes dormantes hépatocytaires de parasites, avant de se lancer dans un grand projet de culture à Madagascar. Mais à terme, je pense que ça serait bien que la production de la tazopsine se fasse en tout cas à Madagascar.
Et alors, pour terminer cette émission, il y a de nombreux laboratoires qui travaillent sur le paludisme, alors chacun de manière différente, que ce soit sur le moustique, comme vous, Cécile, vous, Maëlle, plutôt sur l'homme, et sur le plasmodium. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui travaillent uniquement que sur le plasmodium ?
Oui, tout à fait. Cécile. Un certain nombre de laboratoires travaillent sur le plasmodium, puisqu'actuellement, ils ont réussi à faire notamment des plasmodiums génétiquement modifiés, ce qui permet aussi d'étudier le plasmodium. Donc, on a des espèces de plasmodium qui ne sont pas capables d'infecter les moustiques, par exemple, à différents stades, etc. Donc, ça existe et c'est travaillé.
Et donc, toutes ces connaissances peuvent être mises en commun pour essayer d'avoir une lutte efficace contre le paludisme ?
Ce qui est certain, c'est que ce qu'on a compris, je pense, maintenant, avec le fait que malgré de nombreux programmes de l'OMS, on n'ait pas réussi à éradiquer le paludisme, ce qu'on a compris, c'est qu'il faudra lutter à plusieurs niveaux. Et même sur juste le sujet du moustique, il y a différentes équipes qui travaillent de manière totalement différente. Il y a des gens qui essayent de faire des introductions de moustiques mâles stériles pour bloquer le développement des populations. Il y a des gens qui travaillent sur les insecticides, il y a des gens qui travaillent sur le système immunitaire comme nous. Et je pense vraiment que c'est l'ensemble de ces travaux mis en commun qui permettront de réellement, si ce n'est éradiquer la maladie, au moins limiter ses effets.
L'OMS s'était fixé en 2010 d'éradiquer à 50% le paludisme. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le domaine de l'utopie ou ça peut être effectif ?
Je pense que c'est complètement utopique. 2010, c'est déjà raté, ça c'est sûr.
En tout cas, vos recherches sont porteurs d'espoir, je pense qu'on peut le dire.
En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à les réaliser.
Eh bien, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Maëlle, je pense que vous repartez à Dortmund d'ici quelques jours.
Oui.
Et puis, Cécile, vous repartez à Grenoble, donc travailler sur le pneumocoque cette fois-ci. Je vous remercie d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes venu présenter en juin 2007 vos travaux lors d'une séance à l'Académie des sciences consacrée aux avancées en biologie, les grandes découvertes en biologie, les avancées françaises. Et vous faisiez partie des 6 personnes qui avaient été sélectionnées, des 6 dossiers qui avaient été sélectionnés pour les présenter aux académiciens. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle également à nos auditeurs que nous avons une émission en médiathèque avec Ogobara Dumbo qui préside le MRTC qui est donc en fait le Malaria Research and Training Center et qui a reçu le prix Christophe Mérieux pour ses travaux également sur le paludisme. Merci encore une fois.
Et merci de votre invitation.
J'espère à une prochaine fois pour cette fois-ci parler du paludisme et peut-être du vaccin ou des médicaments qu'on aura pu trouver. À très vite, au revoir.
Au revoir.
Thank you.